Bien le bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale, RFI, 5h30 à Paris.
Vincent Dublange.
Afrique Matin, une demi-heure largement consacrée à l'actualité du continent africain. On débute bien sûr par le journal. Ce journal qui va commencer au Mozambique avec cette loi censée pacifier le pays après des mois d'une contestation post-électorale violemment réprimée. Elle a été adoptée à l'unanimité hier au Parlement, mais le charismatique opposant Venancio Mondlane n'est pas représenté à l'Assemblée. Il n'a pas encore dit s'il soutiendrait ou non cette loi. Nous faisons un point également ce matin sur l'évolution des combats au Soudan. Comme attendu, les points de confrontation entre FSR et armée se situent davantage à l'ouest désormais, notamment ces derniers jours autour de la ville d'El Obeid. On va revenir sur RFI largement ce matin, bien sûr, sur l'annonce des droits de douane américains, plus 10% pour quasiment tous les pays du monde. Et une addition bien plus salée pour Madagascar ou encore l'Afrique du Sud notamment. L'agence météo de Mada qui fait peau neuve, reportage dans 10 minutes dans son centre rénové. On parlera aussi de ce record mondial du plus long marathon de cuisine lancé par la chef ivoirienne Zainab Bansé. Rendez-vous dans un petit quart d'heure. Et nous sommes d'abord à Maputo, où le Parlement discutait hier d'une loi cruciale pour l'avenir du pays, tant ces derniers mois ont été marqués par l'extrême tension et les violences au Mozambique. 360 morts au moins selon une organisation locale de défense des droits humains. Violence suite à la présidentielle contestée d'octobre dernier et l'élection de Daniel Chapo à la présidence. Tandis que son parti, au pouvoir depuis l'indépendance, remportait aussi une majorité de députés. Depuis, le calme est revenu. Il y a un mois, plusieurs partis d'opposition ont rencontré le président Chapo. Résultat concret, cette loi, dite de pacification, avec des réformes structurelles. Correspondance régionale, Gaël Lalex.
C'est à l'unanimité et avec acclamation que la loi pour la pacification du pays a été adoptée. Pour Félix Sylvia, président du groupe parlementaire du Frelimo, le parti présidentiel, ce texte représente une occasion sublime de participer au renouvellement du Mozambique. Pour le parti Podemos, ancien soutien du candidat malheureux à la présidence, Venancio Mondlane, ce texte représente un geste de réconciliation et un nouveau pacte démocratique. Bien que la Renamo, opposante historique du Frelimo, ait voté le texte, elle reste sur ses gardes. Une fois transformé en loi, il ne doit pas donner au gouvernement une nouvelle occasion de décevoir le peuple, prévient le député Geronimo Malagueta. La loi pour la pacification propose une transformation profonde de l'État mozambicain, comprenant notamment une réforme de la constitution, du système politique, des pouvoirs du président, mais aussi la dépolitisation des institutions et plus de décentralisation. Venancio Mondlane, qui revendique toujours sa victoire à la présidentielle, ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Il avait été exclu des discussions du 5 mars, mais a depuis rencontré le président Daniel Chapo. Gaël Alex Nairobi, RFI.
Il est 5h33 à Khartoum et à El Obeid. C'est probablement l'un des endroits stratégiques où va se poursuivre la guerre fratricide pour le pouvoir entre les généraux Borhan et Hemeti au Soudan. Les paramilitaires FSR de ce dernier ont perdu du terrain depuis maintenant plusieurs semaines. Les états de Sennar, d'Al Jazeera, du Nil Blanc, la capitale, Khartoum, sont désormais largement aux mains de l'armée régulière d'Abdel Fattah al-Burhan. Il a donc la main sur le sud, le centre, l'est du Soudan. En gros, les forces de soutien rapide se sont repliées et comptent bien maintenir et accroître leur emprise sur l'ouest, les régions du Darfour. Au Kordofan du Nord, c'est plus incertain, avec notamment sa capitale, El Obeid, où de nouveaux combats violents et meurtriers ont eu lieu mardi, Ouda Ibrahim.
El Obeid, ville clé du Kordofan du Nord dans le sud du pays. Encerclée par les forces de soutien rapide depuis le début de la guerre, en 2023, l'armée a pu briser son siège en février dernier. Depuis, elle est la cible des bombardements permanents des FSR. Ce mardi, tôt le matin, soutenus par des troupes qui se sont retirées de Khartoum, les FSR ont attaqué El Obeid. Mais elles ont été stoppées à l'ouest de la ville où elles ont subi de lourdes pertes selon l'armée. Par ailleurs, au Kordofan du Sud, les FSR ont attaqué lundi Khouredib, mais l'armée a annoncé ce mercredi qu'elle avait repris cette localité. Malgré cette série de pertes, le numéro 2 des FSR, Abderrahim Daglou, a menacé d'attaquer l'État du Nord du Soudan ainsi que l'État du Nil. Il a affirmé dans une vidéo où il apparaît entouré de ses hommes que 2000 véhicules se dirigeaient vers cet État. L'armée contrôle désormais la majorité du territoire soudanais et affirme que ses forces se préparent à la reprise du Darfour. Hormis la ville encerclée d'Al-Fasher, les 5 États du Darfour sont aux mains des FSR.
Khouda Ibrahim. Yoweri Museveni attendu à Djouba ce jeudi. Le président ougandais vient dans un contexte de crise aiguë et avec un accord de paix et de partage du pouvoir au Soudan du Sud, plus que jamais sur un fil. Le vice-président sud-soudanais Riek Machar est toujours en résidence surveillée et parallèlement à la visite aujourd'hui du chef de l'État ougandais, une délégation de sages de l'Union africaine est à Djouba. Depuis hier, la juge kényane à la retraite Effi Owor et l'ancien président burundais Domitien Ndayizeye ont vu le président Salva Kiir hier, mais aucune avancée portée à notre connaissance, en tout cas à l'heure où l'on parle. Une délégation de retour à la maison, celle envoyée par Pretoria à Washington DC avec l'idée de convaincre les États-Unis, les convaincre que l'Afrique du Sud n'a aucune intention de discriminer les grands propriétaires terriens blancs. L'administration Trump et son proche conseiller Elon Musk, qui est aussi sud-africain et a grandi sous l'apartheid, ont critiqué récemment une loi promulguée en Afrique du Sud qui permet à l'État, dans des cas très précis d'intérêt public, de récupérer des terres sans compensation. Dans ce contexte, le ton est également monté après des propos de l'ambassadeur sud-africain aux États-Unis, Ebrahim Rasoul, qui avait qualifié, lors d'une table ronde, la politique trumpienne de suprémaciste blanche. Il lui a été demandé de quitter le pays. Et c'est donc dans ce contexte qu'une délégation sud-africaine était ces jours-ci outre-Atlantique, Valentin Hugues.
L'Afrique du Sud ne répond que par le dialogue et la diplomatie, et c'était tout l'enjeu de cette visite, ponctuée de rencontres avec plusieurs hauts fonctionnaires américains comme le responsable des affaires africaines, Crispin Fieri, porte-parole du département des relations internationales.
Nous pensons que ces dialogues aideront l'administration actuelle à mieux comprendre la position de l'Afrique du Sud sur des questions essentielles, en optant pour une perspective plus nuancée.
Notamment sur la question de la redistribution des terres et de l'expropriation en Afrique du Sud, qualifiée par la Maison-Blanche de discrimination envers les fermiers blancs. Clayson Moniela faisait partie du voyage. C'est le responsable de la diplomatie publique au Bureau des Affaires étrangères.
Nous les avons trouvés très réceptifs. Il y avait une écoute attentive et je crois qu'ils ont bien intégré nos clarifications sur le fait que nous ne comptons pas confisquer des terres à qui que ce soit, par exemple. Et c'était important car ces hauts fonctionnaires ont de l'influence auprès du chef de l'État lui-même.
Le nouvel ambassadeur sud-africain aura donc la lourde tâche de poursuivre ses échanges avec la Maison Blanche. Mais pour l'instant, Pretoria n'a pas encore annoncé son nom. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Annoncé, il l'était, mais la réalité demeure dure à encaisser ce matin pour de nombreux pays dans le monde, Afrique comprise. Les États-Unis vont donc bien faire bondir les droits de douane qu'ils demandent pour les produits importés chez eux, plus 10% pour tout le monde, ou quasiment effectif dès samedi, 4h TU. Et plus 25% par exemple sur les voitures, dès ce matin, entrée en vigueur dans 20 minutes. Madagascar aura des droits de douane augmentés de 47%, l'Afrique du Sud 30%, ce ne sont que quelques exemples. Certaines catégories ne seront pas concernées, les lingots d'or, les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs, le cuivre, le bois de construction, certains produits énergétiques ou encore des minéraux introuvables sur le sol américain. On en parle largement sur RFI, notamment dans le prochain journal dans 20 minutes. On va revenir aussi dans le prochain journal sur cette visite. Aujourd'hui, elle débute dans la sous-région de l'Afrique centrale du tout nouveau conseiller Afrique du président Trump. Massad Boulos, il est à Kinshasa depuis hier soir. Les trois États de l'AES, eux, l'Alliance des États du Sahel, espèrent un partenariat encore renforcé avec la Russie. Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont à Moscou sur invitation de leur homologue, Sergueï Lavrov. Décryptage, Serge Daniel.
Partenaires privilégiés de la Russie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso vont rappeler à Moscou que la sécurité au Sahel demeure leur principale priorité. D'après nos informations, dans les délégations sur place figurent des responsables à des questions de défense et de sécurité. L'hôte de la rencontre devrait à son tour rassurer les trois juntes membres de l'Alliance des États du Sahel. Que ce soit sous l'étiquette du groupe paramilitaire Wagner, sous une nouvelle dénomination, ou encore par le canal de la coopération officielle, la Russie entend renforcer ses liens avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ces trois pays annoncent la création d'une alliance de défense collective. Pendant la visite de 48 heures en Russie, les problèmes économiques seront également sur la table de discussion. L'un des projets phares de l'Alliance des États du Sahel, AES, est la création d'une banque régionale d'investissement. Le partenariat avec Moscou sera demandé. Dans un autre domaine, celui de la diplomatie, les deux parties, AES-Russie, pourraient définir un cadre afin de parler sur le plan international d'une même voix sur plusieurs sujets. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Allez, partons maintenant au Sénégal où la loi dite d'interprétation de l'amnistie a été adoptée hier, 126 voix pour, 20 contre, adoptée à l'issue d'une journée marathon. Les débats ont été tendus. L'opposition parle d'une loi scélérate qui ne servirait qu'à juger les forces de l'ordre. La majorité défend un pas dans la lutte contre l'impunité. Pour rappel, le texte revient sur l'amnistie de l'année dernière pour les crimes commis lors des manifestations anti-régime de 2021 à 2024. Écoutez la réaction d'Aminata, militante du parti au pouvoir depuis un an, le PASTEF, venue de France assister au débat à l'Assemblée nationale sénégalaise. Pour elle, la priorité est de juger les crimes, quels qu'en soient les auteurs.
Il n'y avait pas que les forces de l'ordre, justement. Il y avait des nervis, il y avait des personnes qui étaient en tenue civile, qui étaient avec les forces de l'ordre. Donc aujourd'hui, vouloir dire c'est seulement les forces de l'ordre et que vous pointez du doigt les forces de l'ordre, je pense que c'est justement ça qui va diviser le pays aujourd'hui. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas diviser le pays aujourd'hui. On veut que justice soit faite tout simplement. Quel que soit le bord, résoudre cette fracture, justement, c'est ce qu'on est en train de faire. Mieux comprendre le pourquoi du comment. Et voter cette loi et que justice soit faite. Une fois que justice soit faite, après les gens sont capables de pardonner. Mais tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de pardon qui est possible.
Propos recueillis par Léa Lisa Vesteroff. À Madagascar, la saison des cyclones semble toucher à sa fin. Cette année, le sud de l'océan Indien a enregistré 14 systèmes différents, dont 4 qui ont directement frappé la grande île. Alors que la pression redescend donc peu à peu, la direction générale de la météo de Mada a entamé une grande transformation de son centre des prévisions, mais aussi de l'ensemble de ses stations météo. Sarah Teto.
La grotte sombre, qui faisait office de centre de prévision météorologique, a été transformée en une salle lumineuse. Des écrans de visualisation recouvrent désormais les murs, un environnement beaucoup plus agréable dont se réjouissent les 3 prévisionnistes, habitués à vivre quasiment 24 heures sur 24 au bureau pendant la saison cyclonique. Et ces aménagements devraient s'accompagner sous peu de matériel de pointe, explique Rivou Ranjanarson, chef prévisionniste à Météo Madagascar.
10 nouveaux stations synoptiques, une vingtaine de stations hydrologiques, une vingtaine de stations pluviométriques également, qui vont être répartis sur l'ensemble de l'île. Ça va largement contribuer à l'amélioration de la qualité des prévisions et de la surveillance des conditions extrêmes. J'avoue qu'on travaillait avec des systèmes dès avant. On a quand même pu assurer notre rôle pour la protection de la population, mais là, ça va changer.
L'enveloppe d'environ 4 millions de dollars a été octroyée par l'Organisation mondiale de la météorologie, le PNUD et la météorologie allemande. De quoi permettre à Madagascar, pays de plus en plus soumis aux phénomènes climatiques intenses, d'affiner ses prévisions et de bénéficier d'un maillage complet de son territoire, souligne le ministre de la météorologie, Valérie Ramonzavé.
Nous devons mettre les moyens pour permettre d'avoir des données beaucoup plus fiables et qui, avec ces alertes précoces, peuvent non seulement faire diminuer les risques de perte de vie, mais également aussi les détériorations des infrastructures à Madagascar.
Ces données seront mises à disposition. Des ONG de conservation de la faune et de la flore ont déjà annoncé vouloir les utiliser pour mieux comprendre l'adaptation des écosystèmes face au changement climatique. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Les sports avec la CAN U17 qui se poursuit au Maroc, c'est du foot. Cameroun, Afrique du Sud, attendu aujourd'hui, premier tour de phase de groupe, 14h temps universel. On fera le point complet dans une heure. Journal des sports d'Antoine Grenier, un autre type de sport. Tiens, en Côte d'Ivoire, pour terminer, la chef Zeynab Bansé, qui n'a pas renoncé, elle veut battre le record du plus long marathon de cuisine. Elle avait raté sa première tentative invalidée à cause d'un problème de captation vidéo. Elle a remis le tablier et hier soir, elle a franchi la barre des 145 heures de cuisine avec de nombreux supporters à ses côtés. Abdelaziz Diallo.
Sur l'esplanade du palais des sports de Trècheville, des centaines de jeunes se pressent devant une baie vitrée. Le regard rivé sur la chef Zeynab Bansé, qui après plus de 145 heures au fourneau, enchaîne encore les plats. Avec seulement 5 minutes de pause par heure travaillée, elle a déjà servi plus de 10 000 assiettes. Un exploit qui force l'admiration, comme le témoigne cette jeune pâtissière venue la soutenir.
Ça m'inspire beaucoup. Je vois en elle une femme très battante. Elle appelle la jeunesse à se battre, à relever les défis au fait dans tous les domaines.
Pour ses supporters, Zeynab Bansé est devenue une fierté nationale. Beaucoup sont convaincus qu'elle ira au bout.
Je suis fier de voir la population ivoirienne soutenir une sœur dans quelque chose. Défaite n'est pas ivoirien, donc obligé à réussir.
Malgré l'invalidation de sa première tentative, après 131 heures de cuisine, Zeynab n'a pas baissé les bras. Cette fois, l'organisation a tout mis en œuvre pour éviter une nouvelle déconvenue, explique Amichia Daniel, membre du staff.
Nous avons appris de nos erreurs, nous avons confié la captation à des personnes bien précises et nous avons mis des générateurs pour que la captation ne soit à aucun moment interrompue. rompu, afin que cette fois-ci, le record soit validé.
Si Zeynab Bansé a déjà dépassé les 119 heures du précédent record mondial, il faudra attendre la fin du marathon et la vérification des juges du Guinness World Records pour officialiser son exploit. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Afrique Matin sur RFI.
Le menu des prochaines minutes sans la chef Zeynab Bansé, mais toujours en Côte d'Ivoire pour notre grand format dans un instant. Après cela, un portrait d'entreprise dans Afrique Éco, Spiro, l'assembleur de motos électriques qui domine en Afrique. Dans 10 minutes, l'info dans l'océan Indien et les inquiétudes à Mayotte et la réunion vis-à-vis du virus du chikungunya. RFI reportage. Comment perpétuer la mémoire des soldats africains qui ont combattu pour la France? La question agite la communauté ivoiro-guinéenne de Danané, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où RFI continue de poser ses micros grâce à notre correspondant Benoît Almeras. Danané, c'est à 15 km du Libéria et une trentaine de la Guinée. Là-bas vit notamment Monsieur Lama Nyankoy, 94 printemps, vétéran de l'armée française. Que dit son parcours, sa vie de l'histoire contemporaine ouest-africaine entre la Guinée de Sékou Touré, la France du général de Gaulle et la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny? Rencontre exceptionnelle.
Dans l'armée, je m'appelle Caporal Nyankoy Lama.
Appuyé sur sa canne devant sa maison modeste, le Caporal Lama Nyankoy a l'esprit toujours vif. À 94 ans, entouré de ses proches, le patriarche raconte son parcours militaire. Engagé à 19 ans à Nzérékoré, le soldat originaire de Guinée sert à Madagascar ou encore en Algérie.
Où j'ai servi, Constantine, au rang, et où j'ai servi au mode de combat.
Mais en 1958, le caporal doit choisir son camp. La Guinée de Sékou Touré prend son indépendance de la France avec fracas.
Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage.
Lama Nyankoy sert encore 7 ans sous les drapeaux bleu-blanc-rouge, comme l'explique Félix, son fils.
La Guinée a demandé d'avoir sa libération. L'armée française a quitté. Maintenant, lui, il a demandé d'aller terminer ses 15 ans de service avec les Français pour qu'il puisse avoir sa pension.
Un choix et des conséquences à sa démobilisation en 1965. Les Guinéens de l'armée française sont vus comme des traîtres et des parias dans leur pays natal. Parmi eux, 37 vétérans échouent à Danané, en Côte d'Ivoire, autre pays hostile aux yeux du régime de Sékou Touré, un nom que Lama Nyankoy ne veut plus entendre.
Lèvez le nom de Sékou Touré. Faut pas parler de gros mots avec moi. Ah, c'est un politique, je ne connais pas politique. Quand c'était vivé, c'était très dur pour nous. Je ne veux même pas attendre son nom.
Francine Damé préside l'association des enfants des anciens combattants de Danané. Son père en était le chef.
Au moment où Sékou Touré était au pouvoir, je voyais mon papa ne pouvait pas rentrer.
Et est-ce que vous avez compris après coup pourquoi c'était comme ça?
Ceux qui ont suivi les Français ne pouvaient pas rentrer. Parce que lui, il a trouvé peut-être que les Français étaient ses ennemis.
Et ce passé ne passe toujours pas pour Francine, surtout quand elle se rend en Guinée.
Même si on va aujourd'hui, nous sommes les anti-guinéens. Même si on dit nous sommes guinéens, ils ne veulent pas accepter ça. On nous appelle, on dit nous sommes des Ivoiriens. Eux-mêmes, ils savent que nous sommes guinéens, mais ils disent que oui, nous, au moment où eux, ils souffraient là, nous, on était où? Donc, c'est comme ça, on nous traite toujours. Donc, ce n'est pas facile.
Ses descendants redoutent d'être oubliés par la France, le pays que Lama Nyankoy avait choisi de servir. Benoît Almeras, Danané, RFI.
Et si vous avez apprécié particulièrement ce reportage, vous le retrouvez, comme tous nos reportages à tout moment, sur notre appli de podcast RFI Pure Radio.
RFI, Radio France Internationale.
Vincent Dublange.
Et le dossier Afrique Éco. Dans une minute, avant cela, on fait le tour de l'actualité internationale de ce jeudi 3 avril avec, bien sûr, les premières réactions après l'annonce des droits de douane américains. La présidente de la commission de l'UE qui parle d'un coup majeur porté à l'économie mondiale. Le Japon qui juge ses droits de douane extrêmement regrettables et possiblement contraires aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. La Chine demande à Washington de les annuler immédiatement. Cette nuit donc, le président américain a présenté ce qu'il qualifie de déclaration d'indépendance économique. En fait, des droits de douane, plus 10% au moins imposés à la quasi-totalité des pays du monde, en particulier la Chine, l'Union européenne. Les bourses asiatiques sont en forte baisse ce matin. L'or, lui, voit son cours flamber. Dans l'actualité également, le Premier ministre israélien qui annonce que son armée morcelle la bande de Gaza et saisit des zones du territoire pour forcer le Hamas à rendre les otages. Le mouvement armé palestinien lui a rejeté la dernière proposition de trêve et de libération d'otages. Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, qui est arrivé tout à l'heure en Hongrie. C'est la première fois qu'il se rend dans un pays membre de la Cour pénale internationale depuis que la CPI a mis contre lui un mandat d'arrêt. Togo, 2020, Bénin, 2 ans plus tard, Rwanda, la même année. Puis Kenya en 2023, Ouganda et Nigeria l'année dernière. C'est une entreprise qui étend son emprise que l'on vous présente ce matin dans Afrique Économie. Vous la connaissez sans la connaître peut-être si vous circulez souvent à moto, taxi ou pas dans ces pays-là. Spiro, c'est 90% du marché de la moto électrique en Afrique. On estime qu'il y a environ 30 000 deux-roues motorisées électriques sur le continent. Grâce à Clairfage, on va plonger à l'intérieur de la machinerie, du modèle économique du groupe.
Les deux dernières années ont été consacrées à améliorer les modèles de motos électriques et leurs prix, explique Kaushik Burman, le PDG de Spiro.
If you have to be successful in this game.
Si vous voulez réussir dans ce domaine, vous devez vraiment proposer des produits abordables et des produits robustes. Parce qu'en Afrique, les terrains sont très difficiles. Le Rwanda a des pentes raides à 18 degrés. L'Ouganda a des routes caoutchouteuses. Il faut donc des motos de très grande qualité, mais à un prix abordable, moins cher qu'une moto essence. Aujourd'hui, nous y sommes parvenus.
Dans ce modèle économique, le client n'achète que la moto. La batterie, Spiro l'échange dès qu'elle est à plat. L'entreprise est devenue un fournisseur d'énergie.
Nous avons dépassé les 17,5 millions d'échanges de batteries aujourd'hui. Cela montre à quel point nous avons progressé au cours des 20 derniers mois. Nous avons environ 600 stations d'échange de batteries actives.
Ce maillage met fin à l'anxiété sur l'autonomie de la moto électrique pour un coût inférieur au carburant d'une moto thermique, reconnaît Yao Amedokpo. Mais selon ce spécialiste des mobilités urbaines et électriques à l'école des ponts et chaussées, la maintenance est encore un problème.
Quand vous prenez l'exemple de Lomé, il y a un seul centre de maintenance des motos qui se situe en périphérie de la ville. Et du coup, quand les conducteurs de motos ont des pannes en ville, parfois, il faut appeler ce centre-là pour chercher un moyen de transporter la moto, aller jusqu'au centre. Et comme c'est le seul centre, il y a un temps d'immobilisation qui est assez long.
Autre réserve du chercheur, le modèle industriel crée encore peu d'emplois sur le sol africain.
Pour l'instant, moi, je n'y vois pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc, c'est toujours des motos en caisse qui arrivent et qui sont assemblées par les concessionnaires à Lomé ou à Cotonou. On ne voit pas vraiment comment est-ce que cela pourrait redynamiser le tissu industriel.
Spiro attend des incitations publiques pour fabriquer davantage en Afrique. L'entreprise assemble déjà des pièces plus sophistiquées au Kenya, comme les moteurs et les contrôleurs des motos. Elle compte implanter dans les mois prochains des usines au Nigeria, au Rwanda, en Ouganda. Pour doper encore ses ventes, elle a choisi Davido comme ambassadeur. Le partenariat avec l'artiste pourrait se renforcer.
Merci Claire Page, du service économie de Radio France Internationale. Le lithium au cœur de la chronique quotidienne des matières premières sur RFI. L'or blanc, comme on l'appelle parfois, qui suscite bien des convoitises puisqu'il fait partie de la famille des métaux essentiels à la fabrication de nombreux éléments utilisés dans la transition vers une énergie bas carbone. Le minier australien Rio Tinto veut d'ailleurs investir dans le lithium en RDC. La RDC qui exploite peu cette ressource pour le moment, c'est ce que nous apprenait il y a quelques jours l'agence américaine Bloomberg. Dans le même temps, la Russie a fait du lithium un élément central de sa stratégie économique. Le président Poutine l'a demandé en personne. Un grand plan industriel vient d'être lancé pour une production de lithium russe à grande échelle d'ici 5 ans. Anissa El-Jabri.
Vladimir Poutine avait lancé son appel lors d'une conférence consacrée aux technologies de pointe à Moscou le 21 février dernier. « Nous n'exploitons toujours pas de lithium », avait-il dit, « mais nous pouvons le faire et nous aurions même dû commencer il y a 10 ou 15 ans ». Fin de citation. La Russie dispose en effet de ressources de lithium. Elles ont été estimées à environ 1 million de tonnes en 2024. Cela fait d'elle le quatrième pays en Europe pour ses réserves derrière l'Allemagne avec 3,8 millions de tonnes, la République tchèque 1,3 million et la Serbie 1,2 million. Dans le monde, en revanche, la Russie se classe très loin derrière les géants d'Amérique latine comme la Bolivie, dont les réserves sont estimées à 23 millions de tonnes, l'Argentine à 22 millions et le Chili à 11. Jusqu'ici, d'ailleurs, la Russie se préoccupait assez peu de l'exploitation de ce minerai et se reposait largement largement sur les importations, les sanctions occidentales ont tout changé. Dans ce domaine comme dans tant d'autres, Moscou cherche à développer son autonomie et à passer de la production actuelle très limitée à une plus grande échelle, et ce d'ici 5 ans. Aujourd'hui, la production de lithium en Russie se limite à 27 tonnes par an. Elle est extraite comme sous-produit de l'exploitation d'émeraudes dans les montagnes de l'Oural. En première ligne aujourd'hui pour ces projets, Polar Lithium, une co-entreprise entre le géant russe des métaux Nornickel et la société publique d'énergie nucléaire Rosatom. Polar Lithium veut développer le gisement de Kolmozerskoye, le plus grand de Russie, situé dans la région de Mourmansk. C'est au nord-ouest du pays. Le ministère des Ressources naturelles a d'ailleurs délivré 2 autres licences pour exploiter un autre gisement dans cette même région, ainsi qu'un autre dans celle de Touva, proche cette fois de la Mongolie. L'objectif est d'atteindre une production de 60 000 tonnes par an d'ici 2030, un calendrier qui semble très ambitieux selon les analystes miniers indépendants.
Anissa El-Jabri à Moscou. L'info dans l'océan Indien pour terminer avec l'épidémie de chikungunya. Bonjour Luc Sourand.
Bonjour, 5832 cas confirmés en une semaine à La Réunion, c'est 16 de plus que la semaine précédente. Désormais, le virus du chikungunya est partout et plus inquiétant encore, de nouveaux nourrissons sont touchés par la maladie. Les explications de Lise Dumont de Réunion La Première.
Ce sont en tout 14 nouveau-nés de moins de 2 mois qui ont été hospitalisés en soins néonataux ou en soins intensifs. 7 de plus que la semaine dernière. 2 de ces enfants ont été admis en réanimation néonatale pour des complications neurologiques de type encéphalite. Ces petits patients ont été infectés soit à la naissance par leur mère déjà malade, soit lors de leur retour à la maison. L'Agence régionale de santé insiste plus que jamais sur la nécessité de protéger les femmes enceintes et les bébés des piqûres de moustiques. L'usage de répulsifs pour les mères, l'installation de moustiquaires dans la maison, le port de vêtements longs et la chasse aux eaux stagnantes sont fortement recommandés. Le vaccin X-Chic est attendu dans les jours qui viennent à La Réunion, mais il n'est pas indiqué pour les femmes enceintes et les petits-enfants. Seules les mesures barrières sont efficaces pour éviter la maladie chez ces publics fragiles.
La peur du chikungunya, c'est aussi à Mayotte, au village de Mbouini, où les habitants sont remontés contre la présence régulière d'eau stagnante croupissant dans les rues. Les riverains s'inquiètent notamment du risque de transmission de maladies. Écoutez ces témoignages recueillis par Mayotte La Première.
C'est dégoûtant, ce truc-là, parce que ça sent mauvais aussi. Parce que des fois, il y a l'eau de canalisation, il déborde aussi, et ça rentre aussi là, et ça stagne, et ça pue. On ne peut même pas respirer, il n'y a pas longtemps là, on ne pouvait même pas respirer. Ça peut amener le chikungunya, le paludisme, tout ça. Je trouve que c'est dangereux avec nous.
On voit des enfants petits, en bas âge, jouer dans cette eau-là, et dans l'autre qui est juste à côté. Donc là-bas, ils peuvent se noyer, mais là, par contre, je pense qu'ils vont vite attraper des maladies. Et donc, ma propriétaire a trouvé des rats morts juste en dessous de l'eau ici, enfin du ciment. Et donc, on pense que ben ils sont morts parce que ils ont ingurgité cette eau-là, tout simplement.
Et une pétition a été lancée par un habitant qui souhaite alerter l'Agence régionale de santé à ce sujet. Et hier, mercredi 2 avril, c'était la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. À La Réunion, près de 8000 personnes seraient concernées par ce trouble du neurodéveloppement. Rencontre avec Pauline Dijoux, jeune autiste et présidente de l'association J'aime TSA Réunion.
À 27 ans, Pauline est une jeune femme autonome. Insérée professionnellement, cette jeune assistante déléguée régionale Océan Indien pour la Charte Romain Jacob aime se rendre au travail chaque jour. Un quotidien qui lui permet de s'épanouir et d'avoir confiance en elle.
Ça me fait du bien de travailler parce que je sais que certains autistes ne travaillent pas parce que les entreprises ont peur d'embaucher les personnes vivant avec autisme. Pourtant, il y a des aides qui existent avec l'État. L'État embauche. C'est un travail qui me plaît énormément, mais qui me fatigue beaucoup avec la fatigabilité que j'ai en tant que TSA. Mais en même temps, ça me plaît parce que je découvre des choses.
Cependant, atteinte de troubles du spectre autistique, elle a parfois du mal à se confronter aux autres, notamment dans les transports en commun.
Des fois, on peut trouver des gens mal intentionnés, malveillants ou même des soulards dans le bus et ça me fait un petit peu peur. Je pense qu'il faudrait un peu plus de sensibilisation parce que c'est vrai que l'autisme, c'est parfois invisible et visible, c'est certain. Donc je pense qu'il faudrait un peu plus de sensibilisation, un peu plus que les gens se tiennent informés.
Les interactions sociales ne sont pas toujours fluides et elle le regrette. La prévention auprès de la population reste pour elle le meilleur moyen d'être comprise et de pouvoir s'intégrer dans un monde qui peut très vite devenir envahissant.
Un reportage d'Amandine Rivière et Antoine Garnier de Réunion La Première. Bonne journée sur RFI.
Merci Lou, bonne journée également. Et puis concernant Mayotte, on a appris hier soir tard que le projet de loi du gouvernement français pour l'île sera examiné au Sénat français le 19 mai prochain. Restez avec nous dans 30 secondes, l'info continue.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix. Pascal Paradou.
Avec une écriture furieuse, inventive, polyglotte, Max Loeb replonge dans son passé. Jeune homosexuel camerounais, rejeté par son père dans un pays où celui qu'il appelle Pumba règne de toute éternité. Son roman La danse des pères est le récit d'une émancipation.
Écoutez De vive voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.